Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble, 90.8.
Colline Mollard.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 16h30 sur Radio Campus Grenoble. Bienvenue pour cette deuxième édition de Microcité, votre demi-heure d'actualité du vendredi. Au sommaire de cette émission, les protections périodiques ont un coût, parfois compliqué à gérer pour les personnes les plus précaires. 10% des femmes en France affirment ne pas en avoir suffisamment faute de moyens. Qui sont ces femmes précaires et quels sont les dispositifs mis en place? On en parlera dans le dossier avec Lou Momège et ses deux invités. Dans cette édition également, un livre bien particulier intitulé « L'orphelin marseillais ». Son auteur Michael, sans domicile fixe depuis près de 30 ans, y raconte son parcours. Il tente de vendre ses ouvrages dans les rues de Grenoble pour s'en sortir. Nous écouterons son témoignage recueilli par Corentin Bémol en fin d'émission. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8. On est ensemble jusqu'à 17h. Microcité, c'est parti! Il est 16h31, c'est l'heure du journal avec Shannon Marini. Bonjour Shannon.
Bonjour Colline, bonjour à tous et à toutes. La dernière otage française de retour au pays, l'avion de Sophie Pétronin, s'est posé au sud de Paris il y a quelques heures. Retenue au Mali depuis 4 ans par un groupe djihadiste, nous verrons dans ce journal quels enjeux entouraient sa libération. Des amphithéâtres à moitié vides, les universités sont contraintes depuis mardi d'abaisser leur jauge à 50% dans les zones où le virus circule vite. Une contrainte difficile à appliquer, nous sommes allés à la rencontre des étudiants sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Alors que le port du masque est devenu indispensable dans notre quotidien, les ventes de maquillage chutent, une conséquence que remarquent vendeuses et clientes, on l'entendra dans ce journal. La communauté arménienne se mobilise à Grenoble, un conflit armé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan fait rage dans la région du Haut-Karabakh depuis plus de 10 jours. Vous l'entendrez dans ce journal aussi, le témoignage de ces expatriés arméniens. La dernière otage française, Sophie Pétronin, est arrivée en France. Elle a été accueillie par Emmanuel Macron il y a quelques heures. L'humanitaire de 75 ans a été capturée au Mali il y a 4 ans par un groupe lié à Al-Qaïda. Mais Alizée Cheboub, quels sont les enjeux de cette libération ?
Alors il faut tout d'abord savoir que Sophie Pétronin n'a pas été libérée toute seule. Deux Italiens, mais surtout Soumaïla Cissé, ont été relâchés en même temps. Ce dernier est une figure importante du paysage politique malien, un ancien candidat à la présidentielle qui incarne aujourd'hui l'opposition. Les autorités maliennes s'étaient engagées à le faire libérer. Elles ont donc été les principales actrices d'une négociation dont a bénéficié l'humanitaire française. Mais à quel prix ? En effet, cet événement coïncide étrangement avec la remise en liberté d'une centaine de djihadistes retenus prisonniers par le Mali. Simple coïncidence ou échange programmé, depuis ce matin, des politiques français comme Marine Le Pen demandent des précisions sur cet événement.
Merci Alizée Cheboub pour ces précisions. Les métropoles de Grenoble, Lyon, Lille et Saint-Étienne passent en alerte maximale et rejoignent Paris et Marseille. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a annoncé hier soir dans son point hebdomadaire sur la propagation du Covid-19. Les mesures restrictives seront renforcées dès demain. Les bars devront fermer. Les restaurants seront, quant à eux, soumis à un protocole sanitaire plus strict.
Depuis mardi, la jauge des amphithéâtres est réduite de moitié dans les universités en zone d'alerte maximale et renforcée.
En effet, la circulaire du gouvernement leur a été envoyée lundi. Les facs avaient donc 24 heures montre en main pour appliquer cette nouvelle consigne sanitaire. Une mesure difficile à appliquer pour les étudiants rencontrés sur le campus de Saint-Martin-d'Air.
Quand on a eu l'annonce de cette restriction-là, justement, on a reçu un mail dans la foulée qui disait comme quoi les cours étaient quand même maintenus en présentiel.
Et le lendemain, un jour ou deux après, on a reçu un autre mail qui disait « ouais, finalement, ça serait une semaine sur deux ». On a tellement d'informations, c'est deux poids, deux mesures.
J'ai l'impression que la fac, elle est...
perdue.
Un peu perdue.
Ouais, complètement paumée.
J'ai une professeure, par exemple, qui vient avec ses propres lingettes maintenant pour nettoyer, alors que depuis le début, on nous avait dit « non, non, mais vous devez avoir du gel ou du pchit pour nettoyer les bureaux, ce genre de choses », alors que ça fait deux semaines qu'on est là et j'en ai pas vu l'ombre d'un seul pot, quoi, par exemple.
En distanciel, à distance, on peut faire autre chose à côté, il suffit de couper le son, puis on peut faire autre chose à côté, il n'y a pas de problème, alors que quand on est présent en cours, c'est un peu plus compliqué de faire deux choses à la fois. Le prof nous voit.
Le problème, c'est que c'est les étudiants eux-mêmes qui se collent les uns aux autres, qui respectent pas les croix, donc ça, c'est aussi les étudiants, certains étudiants qui sont totalement à la ramasse, on va dire, qui s'en fichent complètement. Donc c'est un peu dommage aussi.
Propos recueillis par Christelle Delfosse. Le Covid n'en finit pas de faire des dégâts. L'étude du cabinet Asterès, publiée en début de semaine, fait état d'une nouvelle victime collatérale, l'industrie cosmétique. Mathilde Carillou.
Port du masque obligatoire, météo caniculaire jusqu'en septembre. Les produits de beauté n'ont pas la cote ces derniers mois. Sonia est vendeuse en cosmétiques à Grenoble. Elle constate un véritable changement des habitudes de consommation.
On a une baisse surtout sur les produits de maquillage, essentiellement les rouges à lèvres, les produits bonne mine qui sont camouflés sous les masques.
En effet, les produits de beauté sont concernés à 25% par cette chute des ventes. Et pour cause, après 2 mois de confinement et une reprise masquée, les consommatrices comme Fanny et Laurine ont tout simplement arrêté.
Moi, c'est clair, j'utilise plus de rouge à lèvres, plus de baume à lèvres, plus rien pour les lèvres. Et je maquille plus du tout mon bas de visage.
Le problème, c'est que tu te maquilles, au final, tu mets le masque, donc ça colle tout au masque et tu transpires. Enfin bon, donc au final, pas tous les jours forcément.
Si certaines se concentrent désormais sur les yeux et le haut du visage, d'autres, comme Chloé, ont finalement appris à se détacher de leurs produits fétiches.
On a appris à vivre démaquillé, entre guillemets, et on a appris à s'accepter moins trafiqué, on va dire. Donc peut-être qu'on a appris à s'assumer, à prendre, mettre moins de maquillage au quotidien.
Moins de maquillage, mais plus de soins, c'est le constat des commerçants de Grenoble. En effet, les ventes de produits liés à l'hygiène, notamment de savon, ont quant à elles augmenté de près de 50%.
L'Assemblée a voté hier soir l'allongement du délai de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. Après 10 heures de débat, la proposition de loi a été adoptée en première lecture. Elle passe maintenant dans les mains du Sénat.
La communauté arménienne de Grenoble se mobilise, Shannon.
Alors que le conflit contre l'Azerbaïdjan fait rage depuis plus de 10 jours dans la région du Haut-Karabakh, les descendants de la diaspora arménienne organisent l'aide humanitaire dans leur pays d'origine, Lucille Bess.
Dans l'entrée de la maison de la culture arménienne, il est quasiment impossible de poser le pied par terre. Il y a des cartons partout, il faut slalomer entre eux. Daniel Maranjan est le président de la structure.
On envoie du matériel de survie pour les militaires, des générateurs électriques solaires, parce que le courant est coupé, on envoie un peu des vêtements, on envoie beaucoup de médicaments.
Elena est une jeune arménienne, elle est installée en France depuis 1 an avec ses 3 enfants. Sur son téléphone, elle fait défiler des vidéos de bombardements. Elle s'inquiète pour sa famille restée sur place.
Mes parents sont toujours en Arménie. Il y a mon frère aussi qui est parti à la frontière avec l'Azerbaïdjan pour combattre alors qu'il vient d'avoir un bébé. Il lutte pour son pays car c'est un moment très important pour notre patrie.
Pour Gaïané, en France depuis 2013, ces violences font ressurgir les blessures du génocide de 1915 perpétré par les autorités turques.
C'est une guerre pour éviter le deuxième génocide des Arméniens. J'ai ma famille et mes parents en Arménie et je m'inquiète beaucoup trop. On n'a pas de nouvelles.
Depuis 13 jours que le conflit a démarré, il a déjà fait des centaines de morts. Alors que chaque partie accuse l'autre de s'en prendre aux civils, le bilan, lui, ne cesse de s'alourdir.
Une trêve serait possible dès ce soir, selon l'Élysée qui l'a annoncé cet après-midi. Un rassemblement en soutien aux civils arméniens aura lieu demain à 18h entre la mairie et le stade des Alpes. La reine des classiques du cyclisme Paris-Roubaix annulée par les organisateurs ce matin en raison de la pandémie. Elle avait déjà été reportée au 25 octobre, mais la propagation du virus a eu raison de l'une des plus grandes courses d'un jour. La première édition féminine de l'histoire du Paris-Roubaix a elle aussi été annulée.
C'est la fin de ce journal. Shannon, on vous retrouve en fin d'émission pour un rappel des titres.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Lou Momège va nous rejoindre en studio dans un instant, accompagnée de ses 2 invités. Elles évoqueront la précarité menstruelle, un sujet encore tabou. Ne bougez pas. Full-time living on a half-time schedule. Always trying to make everybody feel special. Learning when to break and when to hit the pedal. Working hard to look good till we die. Critical reason there's a population raising eyebrows and a new generation. Rosie the Riveter with renovations and always gets better with the wine. Redesigning the women, running the world while we're cleaning up the kitchen. Making bang, shaking hands, driving 80, trying to get home just to feed the baby. Skipping the bread for the butter. Changing our minds like we change our hair color. Yeah, ever since the beginning, we've been redesigning women.
secretly we all know. Redesigning women, running the world while we're cleaning up the kitchen, making banks, shaking hands, driving 80, trying to get home just to feed the baby, skipping the bread for the butter, changing our minds like we change our hair color. Yeah, ever since the beginning, we've been redesigning women. How do we do it? How do we do it? Make it up as we go along. How do we do it? How do we do it? Halfway right and halfway wrong. Redesigning women, running the world while we're cleaning up the kitchen, making bangs, shaking hands, driving 80, trying to get home just to feed the baby, skipping the bread for the butter, changing our minds like we change our hair color. Yeah, ever since the beginning, we've been redesigning women.
C'était Redesigning Woman du groupe The High Woman. Vous êtes toujours sur Radio Campus, il est 16h41.
Le dossier de la semaine.
1,7 million de femmes sont touchées par la précarité menstruelle en France. Les causes sont multiples, pas d'accès à l'eau potable, des protections hygiéniques trop chères, mais aussi un manque d'informations sur le sujet. Lou Momège, les protections périodiques, c'est si cher que ça ?
Bah oui, plutôt, Colline, surtout pour un produit de première nécessité. En fait, au cours de sa vie, une femme dépenserait entre 1730 et plus de 5000 euros rien que pour des protections hygiéniques. Et encore, ça, c'est que des estimations, parce que ben, finalement, on n'a quasiment aucune étude sur le sujet. En attendant, la précarité menstruelle, ça existe bien et c'est un vrai problème. D'ailleurs, la ville de Grenoble organise une collecte de protection périodique du 5 au 12 octobre, mais ça, on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, on reçoit Pauline Coiffard du planning familial de l'Isère, ainsi que Chloé Lebray, conseillère municipale à l'égalité des droits. Elles participent toutes les deux à la collecte de cette semaine. Bonjour Pauline, bonjour Chloé.
Bonjour. Bonjour.
Alors, tout d'abord, Pauline Coiffard, d'après votre expérience au planning familial, finalement, comment ça se manifeste la précarité menstruelle et surtout quelles sont les principales problématiques qui en découlent ?
La précarité menstruelle, en fait, ça peut prendre plein de formes différentes, mais dans l'idée, c'est le fait qu'une femme ou une personne menstruée ait besoin de choisir entre s'acheter des protections périodiques ou s'acheter à manger, par exemple. Ça peut prendre la forme, par exemple, on l'a vu en prison assez récemment, de femmes qui vont couper des bouts de bouteilles pour en faire des cups pour avoir des protections périodiques puisqu'elles n'ont pas les moyens de s'en acheter. C'est ça la précarité menstruelle. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être aussi le fait de ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail ou à l'école, par exemple, parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter des protections périodiques. Et la précarité menstruelle, c'est aussi social, c'est-à-dire que c'est aussi le fait de ne pas pouvoir parler des règles en société, le fait que ce soit toujours un tabou en 2020, que ce soit toujours considéré comme quelque chose de sale. Dans certaines familles, pour certaines personnes, ça reste un tabou social très très fort.
D'accord. C'est donc un problème qui est essentiellement économique à la base, mais qui a aussi des impacts sanitaire. 7% des femmes utilisent du papier toilette ou autre chose à la place de protection hygiénique, ce qui n'est pas forcément bon pour la santé. Et 10% renoncent à changer de protection hygiénique aussi souvent que nécessaire, toujours par manque de moyens. Vous, par exemple, au planning familial, est-ce que vous rencontrez des femmes qui ont dans ce type de situation ou pas trop ?
C'est ce que je disais sur le fait que c'est un sacré tabou. C'est pas quelque chose dont on parle et on vient certainement pas au planning en disant « je souffre de précarité menstruelle ». Nous, ce qu'on fait au planning, et grâce à cette collecte en partie, c'est qu'on met à disposition tout au long de l'année des protections périodiques dans nos toilettes. Et ce qu'on peut en dire, c'est qu'on laisse un paquet en une journée, il n'y en a plus dans chacun de nos centres. Donc la précarité menstruelle, c'est un vrai sujet. Et le public cible du planning, c'est le public, c'est une immense majorité de femmes cis menstruées. Il y a aussi des hommes trans et des personnes non-binaires qui peuvent avoir leurs règles, mais sont une majorité de personnes précaires, étudiantes, des jeunes filles souvent. C'est ça le public cible du planning. Donc forcément, c'est un public qu'on va toucher à travers cette collecte et on est hyper... hyper contente de participer à cette collecte et de la co-organiser avec tout un tas d'autres assos et la ville de Grenoble, parce que c'est un vrai enjeu de société et cette semaine, ça nous sert aussi à visibiliser cette précarité-là.
Donc vous insistez sur le fait que ce soit un tabou, que voilà, il faut le rendre visible. D'ailleurs, ça fait que très peu de temps qu'on parle de précarité menstruelle en France, parce que le coût des règles est devenu un sujet d'actualité seulement à partir de 2015. Donc pour vous, Chloé Lebray, ce phénomène, il est encore trop peu connu.
Oui, il est trop peu connu et c'est pour ça que, par exemple, cette année, à la ville de Grenoble, on a décidé de faire cette campagne biannuelle de collecte de protection périodique, un événement aussi politique et avec d'autres dimensions. Et on a notamment organisé une exposition, l'exposition Vivre sans, de l'artiste Argine, qui nous permet aussi de représenter, de visibiliser des personnes menstruées qui ont leurs règles. Et le sang des règles, ben oui, il est rouge et toutes ces déclinaisons. Et il faut attendre 2018 en France pour qu'on ait une publicité qui représente le sang tel qu'il est dans nos culottes et pas juste du sang bleu, un liquide bleu un peu bizarre qui sort d'on ne sait où.
Oui, et quand on parle de désinformation au sujet des règles, on ne peut pas omettre le problème de l'endométriose. C'est longtemps resté dans l'ombre, cette maladie qui touche pourtant plus d'une femme sur 10. Mais Alizée Chebou, pourquoi l'endométriose renforce la précarité des femmes ?
Avoir un flux plus abondant, des douleurs plus fortes et plus présentes, c'est ça l'endométriose. Des règles empirent, dues au déplacement de tissus semblables à celui de la muqueuse de l'utérus. Ces cellules remontent via les trompes et se dispersent dans l'abdomen, ce qui peut entraîner de nombreux symptômes. Adeline est touchée depuis une vingtaine d'années.
Depuis mes premières règles, j'avais eu des grosses douleurs pendant les règles, mais le gynécologue de l'époque m'avait prescrit un traitement qui a calmé ces douleurs. Et quand j'ai arrêté donc, mon traitement pour faire un bébé avec mon mari, les douleurs sont revenues, donc douleurs pendant les règles, pendant les rapports sexuels, des problèmes digestifs, alternance diarrhée, constipation, beaucoup d'infections urinaires, enfin voilà.
Une maladie encore mal reconnue et mal soignée, à part l'opération qui n'est pas toujours efficace, aucun traitement n'a encore été trouvé.
C'est très mal pris en charge parce que justement pour gérer sa douleur, on a recours à toutes les médecines douces comme on les appelle, tout ce qui est thérapie, ostéopathie, naturopathie, sophrologie, fasciathérapie, enfin plein de thérapies comme ceci. Et en fait, au bout de 3 séances à l'année, par personne, on n'a plus de remboursement de la part de notre mutuelle et ce n'est pas remboursé par ailleurs. Donc oui, ça a vraiment un coût.
Une précarité économique, mais aussi un enjeu social. En effet, de nombreuses femmes expliquent avoir déjà dû manquer des journées d'école ou de travail.
Donc effectivement, les règles, ça reste un tabou social. On est peu renseigné sur le sujet, que ce soit sur l'endométriose ou encore la précarité menstruelle. Mais justement, si on revient sur vraiment le sujet de la précarité menstruelle, ça touche un public qui est plutôt négligé. Enfin, est-ce que vous pensez que c'est aussi pour ça qu'on est peu renseigné sur le sujet, Pauline Coiffard ?
Bah, je vous rejoins pas sur le fait que ça touche un public négligé. Enfin, si, ça touche le public des femmes, en fait. Mais ça représente plus de 50% de la population mondiale. Donc, c'est pas... en fait, ouais, il y a 50% de la population mondiale qui a eu ou qui aura ses règles à un moment dans sa vie. Et on en est toujours en 2020 un espèce de non-sujet, alors qu'on n'a pas choisi pour toutes ces personnes qui sont menstruées. On n'a pas choisi d'avoir nos règles. Pour autant, on nous impose de devoir les payer et de ne pas en faire un produit de première nécessité qui serait remboursé par l'État.
Chloé Lebray, pourquoi la ville de Grenoble a justement décidé de s'intéresser à la précarité menstruelle et finalement quelles ont été les initiatives prises cette semaine ?
Eh ben justement, en fait, comme pour rejoindre ce que vient de dire Pauline, c'est qu'en fait, on en fait un problème intime, un problème personnel. Parce que c'est un problème de femme, on va le renvoyer à la sphère privée. Alors que ben, c'est quand même quelque chose de collectif qui touche plus de 50% de la population et qui va du coup toucher aussi indirectement 100% de la population. Et ça serait que à des individus d'assumer ses coûts, ses douleurs et tout ce qui s'ensuit. La ville de Grenoble, elle a décidé de faire ses campagnes de collecte parce qu'il y a un manque de l'État qui ne se positionne pas sur cette question et il n'y a pas de remboursement. Tout ça devrait être pris en charge au niveau de l'État. Et face à ces manques, eh ben, la collectivité de la ville de Grenoble s'empare du sujet. Et donc le but, c'est à la fois une collecte et une redistribution. avec les associations, mais c'est aussi de parler justement du tabou. C'est pour ça qu'on a proposé une conférence avec Élise Thiébaud, qui est autrice de Ceci est mon sang, donc qui a vraiment parlé des règles taboues. Il y a une table ronde aussi, vous parliez de l'endométriose, justement avec un médecin du CHU, avec l'association Endo France et le planning, pour parler aussi de cette question qui est une maladie méconnue encore aujourd'hui. Et on voulait proposer aussi des ateliers de couture. Donc là, à cause de la crise sanitaire, ils seront reportés. Mais pour aussi faire ses propres... Parce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais les produits, justement, les produits les moins chers, les produits d'hygiène les moins chers, en fait, c'est ceux où il y a c'est les plus mauvais. Et du coup, on a besoin aussi de reprendre d'avoir ce savoir de pouvoir faire nos protections nous-mêmes, tout en sachant que même si on a ces protections durables, ça ne convient pas à tous les publics, notamment pour les personnes qui vivent à la rue et qui ne peuvent pas stériliser ces produits-là, qui n'ont pas accès à de l'eau potable, etc. Donc voilà, ça ne convient pas à tout le monde.
D'où l'importance de faire une collecte. Et pour l'instant, ça donne quoi ? Vous avez un peu des résultats sur les récoltes, entre guillemets ?
Alors, pour le moment, non, c'est trop tôt pour savoir ce que a donné cette collecte d'une semaine, donc qui va continuer encore quelques jours. On pourra peut-être avoir des résultats d'ici mardi ou mercredi prochain. Ce qu'on voit pour le moment, le ressenti, c'est qu'il y a un peu moins de dons que l'année dernière, parce que la population est éprouvée déjà par le Covid, par la crise sanitaire, et qui est aussi une crise économique. Et donc, voilà où on en arrive aujourd'hui.
Et pendant ces ateliers, ces collectes, qui est le public que vous voyez venir ? Est-ce que c'est les personnes directement concernées ? Est-ce que c'est, j'imagine, la plupart des femmes ? Enfin, qui
justement, lors des collectes, c'est assez intéressant parce qu'on va en faire donc, dans les MDH, à la MDA, à l'hôtel de ville, mais aussi, par exemple, le plan...
Est-ce que vous pourriez préciser juste ce que c'est la MDA ?
La maison des associations, dans les maisons des habitants à Grenoble. Et le planning en propose aussi dans des supermarchés, à l'entrée des supermarchés. Donc, en fait, on va toucher des publics qui ne sont pas menstrués, qui vont aller acheter, enfin qui vont faire des dons, donc ils vont se rendre compte en fait du coût que ça peut avoir. Il y a des hommes cis qui vont acheter pour la première fois de leur vie en fait une boîte de tampons et qui vont se dire « Ah, mais en fait ça coûte tant !» Donc c'est ça qui est assez intéressant pédagogiquement. Après, l'idée justement des ateliers de couture, c'était de les proposer dans les MDH, dans les maisons des habitants, aux quatre coins de Grenoble, pour pouvoir toucher le plus largement les publics. Et puis, bien sûr, on travaille, du coup, c'est pas la ville de Grenoble, c'est la ville de Grenoble avec les associations et des associations de personnes concernées.
Bon, je crois que le dossier touche à sa fin. En tout cas, merci Pauline Coiffard. Je rappelle que vous êtes au planning familial de Grenoble. Et merci Chloé Lebré, qui est conseillère municipale à l'égalité des droits.
Merci à vous.
C'est la... Pardon, allez-y.
Non, si je peux juste rajouter un truc qui n'a rien à voir avec la collecte, je vais le faire du coup. Demain, il y a un rassemblement contre la manif pour tous à 14h à Victor Hugo. Voilà, le planning et Chloé, le vrai, appelle au rassemblement. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, merci à vous. C'est la fin de ce dossier. Donc, merci d'avoir pris le temps de venir dans notre studio. On l'a compris avec vous, la précarité menstruelle, c'est un vrai problème dont on discute encore trop peu. C'est un sujet qui ne touche pas que les femmes, hein, c'est une question sociétale. C'est une question qui ne doit pas aussi rester seulement dans la sphère privée, comme vous l'avez dit. Et les Grenoblois ont d'ailleurs jusqu'à lundi pour faire un don de protection hygiénique dans une dizaine d'établissements. Merci à vous aussi, Lou, pour ce dossier.
Microcité, en direct jusqu'à 17h. Il est 16h54, on est ensemble pour quelques minutes encore. Si vous vous baladez dans le centre-ville de Grenoble, peut-être que vous avez fait la connaissance de Michael Allègre. Ce quadragénaire sans domicile fixe vagabonde sur les routes de France depuis ses 18 ans. Il s'est installé à Grenoble pour vendre des livres dans la rue, mais pas n'importe quel livre. Il propose son roman qu'il a lui-même écrit et édité. Un écrivain de la rue qui a rencontré Corentin Bémol pour Microcité.
Bonjour, est-ce que vous lisez des livres ?
Phrase d'accroche lancée, grand sourire et livre en main, Michael Allègre interpelle les passants pour vendre son histoire, un exercice compliqué, mais qu'il pratique avec beaucoup de philosophie.
La vente de rue, oui, c'est très dur, mais d'un autre côté, si on est positif, on se dit, ok, on va me virer deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, à un moment donné, ça finit par payer, et c'est ce que je me dis toujours.
Ce guerrier de la rue vend son autobiographie « L'orphelin marseillais », un livre qui débute par la rencontre de ses parents dans le monde criminel des années 70, puis son enfance difficile et ses nombreux déboires.
J'ai quitté les pensionnats, on va dire, vers 15 ans et demi. J'ai fait un an de CAP vendeur. Ensuite, il y a eu des malheurs. J'ai aussi suivi des personnes que j'aurais pas dû suivre. Et je me suis retrouvé donc dans une première incarcération. C'est vrai qu'à ma sortie de prison, justement, j'avais pas d'adresse. Moi, à 18 ans, on peut dire que j'étais SDF déjà.
En prison, Michael rencontre la responsable d'un atelier d'écriture qui va l'encourager à se lancer.
Elle m'a vraiment motivé en me disant, vous savez, moi je connais des gens qui sont très forts en orthographe, mais ils n'ont pas d'histoire à raconter. Vous prenez pas la tête avec ça, faites votre histoire, racontez-la.
À ce moment-là, c'est le déclic. D'autres rencontres lui permettent des années plus tard d'auto-éditer son roman via la plateforme Lulu.
J'ai commencé janvier 2013 et j'ai fini janvier 2019 pour l'écrire, le corriger et le publier. Ça fait quand même un travail de 6 ans.
Graziella a acheté ce livre il y a un mois et s'est rapprochée du SDF, avec qui elle discute désormais régulièrement. Pour elle, le parcours de Michael est une véritable leçon de vie.
C'est un battant. Il est très croyant. Et c'est vrai qu'il va de l'avant, il essaie par tous les moyens, il est très dynamique. Et c'est vrai, moi je suis à fond dans l'histoire, parce que je suis vraiment proche, je veux vraiment qu'il s'en sorte.
Michael a pour l'instant vendu une centaine de livres depuis son arrivée à Grenoble et s'est lancé sur YouTube pour partager son expérience et ses pensées. Aujourd'hui, en parallèle de ses ventes urbaines, il multiplie les projets en faveur des défavorisés.
J'ai eu l'idée de créer ma propre association. Et donc j'ai créé cette association Les 13 SDF, qui à la fois permet à des gens de sortir de la rue, mais en même temps de leur permettre aussi d'avoir un avenir.
L'homme qui a passé sa vie à bouger de ville en ville, de Brest à Lyon, en passant par Orléans et bien sûr Marseille, soutient qu'il n'a pour l'instant pas l'intention de quitter Grenoble. Il veut recommencer sa vie dans cette ville en vendant son livre qu'il vante ou qu'il plaît.
Un beau plateau.
Et si cette histoire vous intéresse, en plus de pouvoir l'acheter dans la rue, L'orphelin marseillais est également disponible sur le site lulu.com. 16h57, c'est l'heure du rappel des titres avec Shannon Marini.
La dernière otage française, Sophie Pétronin, de retour au pays. Elle a été accueillie par Emmanuel Macron à l'atterrissage de son avion il y a quelques heures au sud de Paris. L'humanitaire de 75 ans a été capturé au Mali il y a 4 ans par un groupe lié à Al-Qaïda. Une trêve possible dans le Haut-Karabakh dès ce soir, annonce de l'Elysée cet après-midi. Les négociations ont débuté il y a quelques heures à Moscou entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Depuis plus de 10 jours, les combats font rage dans la région séparatiste. Le Nobel de la paix a récompensé ce matin le programme alimentaire mondial des Nations Unies pour, je cite, « ses efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre ». Le programme onusien intervient notamment au Yémen et en Corée du Nord. Match en cours à Roland-Garros, Rafael Nadal affronte l'Argentin Diego Schwartzmann. En demi-finale, le deuxième mondial Nadal mène 2-0.
Merci Shannon, on se dit à la semaine prochaine. Il est 16h58. Pour finir, un point sur la météo. À Grenoble, le temps sera couvert en soirée. La température descendra jusqu'à 11 degrés cette nuit. Demain, par contre, de la pluie au programme, 14 degrés maximum, avant un dimanche froid, mais plutôt ensoleillé. C'est déjà la fin de Microcité. Merci de nous avoir suivis pour cette deuxième édition. Merci également à Denis Morin qui a accepté de remplacer notre technicien pour l'émission. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiocampus.fr et sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur Radio Campus 90.8.